mars 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Nous allons essayer de continuer d'entrer dans ce que représente cet art qui, d'une certaine manière, est le premier. C'est très difficile de savoir si c'est l'art le plus parfait. D'une certaine manière, je crois que pour chaque art, on peut dire comme pour saint Thomas, pour chaque vertu. Saint Thomas, après chaque vertu, il dit que c'est la plus parfaite. L'obéissance, c'est la plus parfaite. L'humilité, c'est la plus parfaite. La miséricorde, la vertu de religion, c'est la plus parfaite. La justice, c'est la plus parfaite, et ainsi de suite, vous voyez. Alors, il y a quelque chose comme ça pour la diversité des arts. C'est que chaque art a quelque chose d'absolu dans son domaine. Il n'y a pas, pour les vertus, il y a une connexion. Il n'y a pas de connexion de l'art. Ce n'est pas parce que vous êtes poète que vous serez musicien. Ce n'est pas parce que vous êtes poète que vous serez peintre. Et ce n'est pas parce que vous êtes peintre que vous serez poète. Il y a des analogies, il y a certains aspects. Il vaut mieux être poète que ne pas être poète pour mieux comprendre autre chose. Mais quelquefois, c'est juste inverse aussi. C'est très curieux. Autrement dit, il n'y a pas un aspect générique. Et ce que Maritain ferait facilement, il ferait facilement ça, vous voyez. Il y a l'intuition poétique. Parce que c'est l'intuition poétique. L'intuition poétique est d'une certaine manière générique. Il ne le dit pas. D'une certaine manière, générique en ce sens qu'elle est commune, et à partir de là, vous auriez la diversité. Ce qui, je crois, est très faux. Parce que l'intuition, c'est l'inspiration. Je crois qu'il y a une inspiration propre à chaque art. Donc on ne peut pas séparer comme ça, génériquement, une intuition poétique. Ça ne peut pas se faire. C'est impossible. Et il faut au contraire l'application. Pour lui, c'est la technique. C'est l'application, la technique qui viendrait pour chaque art en particulier. Il y aurait l'intuition poétique qui serait commune. Et l'intuition poétique serait même, au fond, au-delà de la métaphysique, de la pensée métaphysique. Il y aurait une intuition poétique qui irait plus loin, qui aurait plus loin l'être que le point de vue métaphysique. Qui serait justement la connaissance de l'essai comme tel, et que cette connaissance qui serait propre à saint Thomas et à Maritain, n'est-ce pas, et qui serait donc quelque chose de tout à fait particulier, et qu'Aristote n'aurait pas connu, mais il serait resté, lui, dans un aspect des trois degrés du savoir et la connaissance philosophique première. Autrement dit, il y a tout un aspect particulier chez lui pour cette question d'intuition poétique qui vaut la peine d'être étudiée. C'est intéressant, c'est un aspect. Je ne crois pas du tout que c'est celui de saint Thomas, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est intéressant parce que c'est une position quand même de Maritain, que Maritain vaut la peine d'être étudié. Alors c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors je crois qu'au contraire, ce que nous allons faire ici, en essayant de voir le point de vue poétique, c'est d'essayer de voir comment le point de vue de la poésie représente un art particulier, distincte des autres, ayant quelque chose de particulier. Pourquoi ? Parce qu'il a une inspiration particulière, il a une matière propre. C'est toujours ce qu'il faut se demander dans chaque art. Et puis après, il faut regarder l'œuvre. Mais l'inspiration, vous comprenez, on ne la voit pas. Vous dites, je suis inspiré. Tant mieux. À quoi pensez-vous ? À l'inspiration que j'ai. C'est évident, quand on est inspiré, on est saisi. Mais l'inspiration, on ne la voit que dans l'œuvre. On peut dire en face d'une œuvre, cette œuvre-là est inspirée. Tandis que devant telle autre œuvre, on dira, oh non, aucune inspiration. C'est une merveilleuse technique, une virtuosité absolue. ça il passe, il a, c'est vraiment une virtuosité parfaite, mais il n'y a pas un souffle d'inspiration. Et c'est vrai, ça existe, des œuvres qu'on appelle proprement académiques, et qui sont des œuvres académiques parfaites au point de vue académique. Donc, tout y est au point de vue proportion, tout y est au point de vue harmonie, d'une certaine manière, pas, je ne dis pas harmonie, mais au point de vue proportion, tout y est. Mais il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de souffle. Ça, on l'a ou on ne l'a pas. La virtuosité, la technique, on peut l'apprendre. Tandis que l'inspiration, ça ne s'apprend pas. Vous ne pouvez qu'invoquer les muses, comme faisaient nos ancêtres. On invoque les muses, puisque l'inspiration, ça vient des muses. Bon, pour nous, nous pouvons dire que ça vient de Dieu, et ça vient aussi de nous. Il y a des gens qui sont inspirés, il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a des gens qui ont des intuitions, il y a des gens qui n'en ont pas. Bon, alors, nous avons commencé à essayer de voir. Je vous rappelais la dernière fois, simplement pour reprendre. Donc, je disais, Maritain, lui, exalte aussi la poésie. La poésie est la libre créativité de l'esprit et la connaissance intuitive par le moyen de l'émotion qui transcende et imprègne tous les arts, vous voyez bien, ça imprègne tous les arts, pour autant qu'ils tendent à la beauté comme à une fin au-delà de la fin. Alors ça, c'est encore mieux. Il y a le point de vue poétique, l'intuition poétique, vous avez l'œuvre. L'œuvre, c'est la fin, et au-delà de cette fin, il y a une autre fin. Transcendant, qui est le beau transcendant. Vous voyez cette chose très curieuse que j'avais touchée l'autre jour et que je crois intéressant à voir, c'est que l'intuition poétique, il faut bien lui donner une légitimité. Maritain oublie que dans l'inspiration poétique, que dans l'inspiration artistique, poétique, picturale, musicale, l'inspiration poétique, c'est la subjectivité transcendante. Il ne faut surtout pas trouver un objet à ce point de vue-là. C'est de l'intérieur. Et je crois que c'est à cause de ça qu'il va tout prix un beau transcendantal. C'est qu'il faut retrouver une objectivité. Parce que Maritain, il est thomiste. Donc il veut toujours un objet à toute connaissance. Il oublie que la seule connaissance où la subjectivité est antérieure à l'objectivité, c'est l'intuition poétique. C'est-à-dire l'inspiration poétique ou l'inspiration musicale. Dans l'inspiration musicale, on a bien une subjectivité transcendantale. Parce que justement, on est en face du sujet qui se donne à lui-même son objet. Et cet objet, c'est le possible. Dont la signification ne vient pas d'un beau transcendantal, mais la signification vient du sujet inspiré. Vous voyez, c'est très intéressant cette position de Maritain sur ce point de vue-là. Elle est très intéressante parce qu'elle montre, vous voyez, la position diamétralement opposée à Kant. C'est toujours intéressant de voir que les deux positions diamétralement opposées sont ordinairement dans le même genre. Vous avez d'une part Kant, d'autre part, Maritain. C'est intéressant d'étudier ça d'à peu près. Les deux contraires sont dans le même genre. Il faudrait voir un genre commun entre Kant et Maritain. Ce serait assez amusant. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Alors, j'explique pour que vous voyez bien les deux positions diamétralement opposées. Kant, subjectivité transcendantale, c'est vrai pour la connaissance poétique. Et vous faites cette connaissance poétique le prototype de toute connaissance. Maritain, lui, il est pour la connaissance spéculative. La connaissance spéculative implique un aspect objectif. Alors, il faut donc que la connaissance poétique ait un objet transcendant. Vous voyez, les deux aspects particuliers, c'est que la connaissance spéculative est en tant que pure, on doit la retrouver là. Et lui, la connaissance poétique étant subjective, on doit la retrouver dans la connaissance culturelle. Il y a quelque chose de diamétralement opposé entre objet et sujet. Vous comprenez bien. Entre objet et sujet. Parce que c'est le point de vue intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de semblable? C'est que des deux côtés, la connaissance poétique est prototype. Voilà, je connais. Voilà que j'en ressens comme. C'est la primauté de la connaissance de l'inspiration, de l'intuition poétique. Pour Maritain comme pour Kant, l'intuition poétique est première par rapport à toutes les autres connaissances. Voilà le genre commun. Mais les deux extrêmes, parce que l'un ramène tout à la subjectivité, l'autre ramène tout à l'objectivité. C'est quand même curieux, ça. C'est toujours intéressant de faire des parallélismes, quand on peut le faire, quand c'est pas factice, entre deux auteurs aussi différents, Kant et Maritain. Ça, Maritain dirait, mais pas du tout, c'est faux. Vous mettez quand même la connaissance poétique au-dessus de tout. Et vous faites de l'intuition poétique quelque chose de premier. La poésie est le lit et la libre créativité de l'esprit. Il faut voir qu'est-ce que c'est que la libre créativité de l'esprit. La connaissance intuitive par le moyen de l'émotion qui transcende et imprègne tous les arts, pour autant qu'ils tendent à la beauté comme à une fin au-delà de la fin. Maritain précise immédiatement, alors la poésie, comme la musique de Platon, est prise en un sens premier tout à fait universel. Et il poursuit, ce sens premier universel peut être restreint. Nous avons alors la poésie comme employant et animant cette activité artistique particulière qui crée un ouvrage de mots, disons la poésie d'expression verbale. Donc il y a la poésie d'expression verbale et il y a la poésie intérieure. La poésie d'expression verbale, c'est celle qui se sert de la technique. La technique, si vous voulez, et plus exactement de l'art. Parce que pour ma réponse, ça c'est l'art. L'art, c'est la réalisation d'une œuvre. Et entre l'art et l'inspiration poétique, il y a un hiatus. Je peux très bien avoir une inspiration poétique sans rien réaliser du tout. Ce que je crois être faux. Je crois que toute inspiration poétique demande de se réaliser. Parce que le propre de la connaissance poétique, comme musicale, comme picturale, réclame l'œuvre. À l'intérieur même de l'inspiration poétique, il y a une idée qui se forme. Et l'idée, c'est une idée force, c'est une idée d'efficacité, c'est une idée qui demande la réalisation d'une œuvre. Oui. Ça, c'est pour expliquer, parce que c'est intéressant, parce que Maritain a quand même une certaine influence, ou a eu une certaine influence, et c'est intéressant de bien préciser sa position. Cette poésie d'expression verbale se manifeste pour Maritain dans les trois formes spécifiques, la poésie du poème ou du chant, la poésie du théâtre et celle du roman. Vous avez donc trois formes de poésie d'expression verbale. Le poème ou le chant, le théâtre et le roman. Très curieux ça. Il y a beaucoup à discuter. Beaucoup à discuter sur la question du roman. Le roman est l'analogue à la poésie, du cinéma au théâtre. Vous allez comprendre. Oui. Je crois que le roman n'est pas un art premier. C'est autre chose. C'est différent. Un peu comme le cinéma. Le cinéma n'est pas un art premier. C'est un art qui se sert d'autres arts. C'est pour ça que c'est un art qui peut avoir une synthèse très extraordinaire, mais qui n'a pas la qualité des autres arts. C'est pour ça qu'être éduqué par le cinéma est une mauvaise éducation. C'est pour ça qu'on ne vous la donne pas ici. Parce qu'être éduqué par le cinéma est une mauvaise éducation. Ce n'est pas une bonne éducation. Une bonne éducation est éduquée par les choses premières, immédiates. C'est la lecture qui vous éduque. C'est la peinture, les chefs-d'œuvre, ça vous éduque. La sculpture, mais pas le cinéma. Et le cinéma, dans la mesure où on sera éduqué par le cinéma, on ne sera que de petits artistes. Très curieux. C'est très intéressant de voir ça. C'est très intéressant parce que notre éducation est tellement, notre culture est tellement marquée par le cinéma, ça fait une culture qui n'a plus la qualité d'une culture proprement marquée par les beaux-arts. Et dans le roman, il y a quelque chose de particulier et d'un peu analogue. C'est curieux. C'est pas un art premier, c'est un art second, je crois. Je n'ai rien contre le roman, mais c'est quand même quelque chose de second. C'est pas les grands artistes. C'est évidemment cette première forme de poésie qui est la plus pure, c'est-à-dire le poème et le chant. Si grande que puisse être la poésie du théâtre, je dirais que la poésie du théâtre est première aussi. Tandis que pour Maritain, elle est seconde. Si grande peut-être que la poésie du théâtre et la poésie du roman, la poésie du poème ou du chant est par nature et restera toujours le type fondamental et le plus spirituel de la poésie. Il y a un théâtre. Et un théâtre exprime quelque chose qui n'est pas la poésie ordinaire, la poésie lyrique, c'est autre chose. La poésie chant, comme dit Maritain. Vous voyez, ce serait intéressant de reprendre ces choses-là, si quelqu'un, du point de vue artistique et du point de vue poétique, reprendre. Il y a des choses très intéressantes dans Maritain, mais c'est mêlé. C'est mêlé. C'est pas net. Il y a deux choses à reprendre chez Maritain. Son point de vue de la poésie, et je crois que ce serait très important de reprendre ce qu'il dit en le redressant, et puis dans les degrés du savoir. Dans les degrés du savoir, c'est un très beau livre, c'est un livre important de Maritain, mais les degrés du savoir demanderaient d'être repris quand Maritain voit les rapports de la philosophie et des sciences. Et c'est les deux points où il y a des choses intéressantes, mais ce n'est pas entièrement vrai. Donc, si grande que puisse être la poésie du théâtre et la poésie du roman, la poésie du poème ou du chant, et par nature, il restera toujours le type fondamental et le plus spirituel de poésie, et le plus cher à l'âme humaine, parce qu'il est le plus proche de l'intuition créatrice. Comme c'est significatif. On voit très bien. L'intuition créatrice, qui est l'intuition poétique, ça c'est le numéro 1. Et alors les arts vont se graduer en fonction plus ou moins proche de ça. Mais ça c'est un peu séparé. Je crois qu'il y a une influence platonicienne. Un manque de réalisme au sens fort, que l'intuition poétique demande une réalisation. Et donc il y a une intuition du théâtre qui est autre chose que l'intuition du poème. C'est autre chose. C'est différent, et l'un a des qualités que l'autre n'a pas, c'est tout. Je ne crois pas qu'on puisse les subordonner comme il le fait ici. Je crois que le seul qu'on pourrait subordonner, c'est le roman. J'aimerais, souligne Maritain, désigner la poésie du poème ou du chant comme la poésie d'internelle musique. Et il renvoie à ce qu'il avait dit précédemment à propos du sens poétique, le sens poétique qui ne fait qu'un avec la poésie elle-même, et l'antéléchie intérieure, ontologique du poème. Il lui donne son être même et sa même signification substantielle. Nous l'avions déjà vu, mais c'est important, j'y reviens exprès parce que je crois que c'est important de bien souligner ce point de vue-là. Alors vous voyez bien, là encore, le passage de la poésie à l'ontologie. C'est très curieux. Ce sens poétique qui ne fait qu'un avec la poésie elle-même. Donc la poésie, elle est intérieure. Le sens poétique et la poésie, elle est intérieure. Puis il y a la réalisation. Alors la réalisation, c'est autre chose. Tout à fait différent. La vraie poésie, elle est intérieure. Elle est purement intérieure et cette musique internelle. C'est une musique intérieure. Donc, le sens poétique qui ne fait qu'un avec la poésie elle-même est l'antéléchie intérieure. l'antéléchie intérieure. L'antéléchie, c'est l'acte. L'antéléchie, c'est l'exercice même de ce qu'il y a de plus ultime dans l'opération vitale. Donc l'antéléchie intérieure ontologique, c'est encore mieux, du poème. Donc c'est la substance, c'est l'acte du poème. Il lui donne son être même et sa signification substantielle. Le sens poétique est la première épiphanie de l'intuition créatrice. La première épiphanie de l'intuition créatrice. Donc celle qui est plus proche. C'est l'expression immédiate de l'intuition poétique. Son expression native est la plus pure, parce qu'elle baigne encore dans la nuit intuitive de la subjectivité. C'est beau, c'est la nuit subjective de la subjectivité. Donc alors vous êtes dans la nuit subjective. Ça vous arrive quand vous dormez bien, n'est-ce pas ? Alors vous êtes dans la nuit intuitive de la subjectivité. Et on voit très bien pourquoi c'est la nuit intuitive. Hein, parce que la lumière, c'est l'objet. Oui, c'est... Marita est tellement saisie par l'objectivité que tout doit trouver l'objectivité. Alors la lumière, c'est le bon transcendant qui va se retrouver dans la subjectivité. Parce que cette subjectivité, sans le savoir, est polarisée par un objet. Qui est le beau transcendantal. On n'a jamais su exactement ce que c'était. C'est très très difficile de le préciser dans Marita. Alors, la poésie d'expression verbale contient en elle toute la richesse de la poésie au sens premier, mais signifie celle-ci en tant que s'exprimant par le sens poétique du poème. Donc, Maritain et Heidegger considère que la poésie est quelque chose de tout à fait primordial, puisque Heidegger exalte la poésie en disant « fondation de l'être par la parole, mode du projet éclaircissant de la vérité ». Et Michel Dufresne, qui se situe dans cette ligne, Michel Dufresne a écrit le point de vue de la féminologie de l'œuvre esthétique, des choses intéressantes, c'est dans la perspective beaucoup plus phénoménologique, mais c'est intéressant à voir. Michel Dufresne, qui se situe dans cette ligne, précise que la poésie de la vie, parce que la vie est poétique, la poésie dit la vie parce que la vie est poétique. Elle est l'espace où la conscience découvre et goûte le monde sans se poser encore comme conscience, où se consomme un impensable monisme que l'irrécusable prose du dualisme viendra bientôt détruire. C'est admirable. Le poète, c'est pas ce qu'il y a de mieux de Dufresne, mais le poète est ce vivant en qui la vie peut se dire selon une parole qui est une avec son objet. Aussi peut-il se croire investi d'une mission, en chantant le monde, il participe à la sacralité de la vie et dispense un sacrement. Dufresne ne croit rien, hein, mais il a la liturgie nouvelle de la poésie. Cette exaltation de la poésie que nous trouvons chez beaucoup de philosophes modernes et contemporains, nous la retrouvons également, mais conçue de façon différente, chez les artistes. C'est très vrai que chez des quantités de philosophes aujourd'hui, la poésie est ce qu'il y a de plus pénétrant dans la réalité. Donc de plus parfait. Premier analogue de la pensée. Je crois que c'est important à comprendre ça. C'est très important. Vous voyez, c'est intéressant parce que toujours la même chose à saisir. Notre monde occidental, hein, la première philosophie qui a commencé, c'est une philosophie quand même assez poétique. Ézéchiel est un poète. C'est un poète, c'est évident. C'est un poète théologien, c'est un poète de la famille. Les travaux et les jours, et puis la théogonie. Donc Hésiode. Puis ensuite, la philosophie est partie du côté de la connaissance spéculative, éthique. Et maintenant, Aristote, pour situer la poésie dans l'ensemble de la philosophie. Il situe la poésie parallèlement à la philosophie créatrice de l'imitation poétique d'Aristote. Aristote ne donne pas la place principale de la philosophie. Je ne dis pas non plus la place dernière, mais il donne place dans l'ensemble. Ensuite, il faut bien voir qu'on a un peu oublié de faire la philosophie de la poésie. Chez saint Thomas, saint Thomas est poète, quand il chante pour l'Eucharistie, il donne la liturgie de l'Eucharistie, mais il ne fait pas de philosophie ni de théologie de la poésie. Alors, ce qu'il faut voir chez les modernes, il est marqué à l'idée la poésie. Il y a donc quand même, d'une certaine manière, quand je ne dis pas explicitement, mais je crois que c'est la poésie qui donne le sens de toute sa philosophie, dans ce qu'elle est vitale, dans ce qu'elle est intéressante. Vous retrouvez ça, c'est assez curieux, le point de départ est tel, où la poésie devient primordiale, l'alpha et l'oméga. De notre monde philosophique occidental. Alors, il y a un livre intéressant à lire, facile à lire, c'est pas d'ordre poétique, mais c'est intéressant à lire, c'est le livre de Michel Carouge. Je sais pas si on l'a ici, on l'a, je crois bien, à Rimont. Parce que je l'avais, je l'ai plus dans la bibliothèque, donc elle doit être mise à la bibliothèque, c'est très bien, c'est tout à fait ce qu'il faut. Le livre de Carouge est intéressant. C'est la mystique du surhomme. Michel Carouge fait observer avec justesse que le vœu capital de la poésie, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est de réaliser une transfiguration édifiante de l'homme, une divinisation qui doit être marquée par une pénétration totale et dominatrice de la nature par l'homme. L'homme transforme notre univers, et enfin l'univers poétique. Et au fond, Carouge montre bien cela, cette espèce d'intention profonde qu'il y a chez les grands poètes d'aujourd'hui. Nous avons évoqué plus haut le témoignage de poètes qui considèrent que leur art est d'essence prophétique, divine ou démoniaque. Donc, au fond, pour toute une série de poètes, la poésie est supra-humaine. Alors, elle est ou divine, ou démoniaque, ou prophétique. Et je crois que ça fait partie, vous voyez, de cette tendance qu'on voit aujourd'hui, et c'est important pour comprendre le point de vue philosophique moderne, de comprendre cette espèce de primat de la connaissance poétique, qui a une influence très grande. Alors, dans une perspective différente, Valéry affirme « J'estime de l'essence de la poésie, qu'elle soit, selon les diverses natures des esprits, ou de valeur nulle, ou d'importance infinie, ce qui l'assimile à Dieu même. » Valéry qui dit ça. Donc on assimile la poésie à Dieu même, comme la grâce. La poésie se forme ou se communique dans l'abandon le plus pur ou dans l'attente la plus profonde. Oui, l'attente de la grâce. C'est d'identifier à la grâce. Ce que nous disons de la grâce, Valéry le dit de la poésie. C'est dans Variété, question de poésie. Vous savez que Valéry est très intéressant pour le philosophe. Hein, parce que Valéry fait une espèce de de réflexion intermédiaire. Il a un sens, un certain sens de la poésie, et puis il y a une attitude tout à fait de réflexion. Peut-être très agaçant de temps en temps, il y a des choses très agaçantes dans Valérie, puis il y a des choses qui sont très intéressantes. Mais vous voyez, cette manière d'analyser, je la crois très juste, elle rejoint bien ce que Michel Carouge dit de son côté. Parce que dans Michel Carouge, il y a toute une étude qui est importante, si on veut comprendre la pensée moderne, de lire ce que Michel Carouge dit. C'est facile à lire parce que ce n'est pas de la philosophie, c'est de la littérature. Et une littérature qui vous donne des quantités de textes, c'est nourri de toute la philosophie moderne, de toute la littérature moderne, pour essayer de comprendre ce qu'il y a de propre dans cette littérature moderne. Donc c'est un livre à lire, mais pas un livre d'études, c'est quand on est fatigué. On a besoin d'une petite détente. Alors on a Michel Carouge à côté, et puis on lit quelques pages de Michel Carouge, et c'est intéressant. Mallarmé porte ce jugement sur les poésies parisiennes. Les sentiments de la vie parisienne pris au sérieux et vus à travers le prisme de la poésie. Un idéal qui n'existe point par son propre rêve et soit le lyrisme de la réalité. Telle est l'intention des poésies parisiennes. Et comme le fait observer Georges Poulet, Poulet aussi c'est encore quelqu'un qui a étudié beaucoup tout ce que représente le point de vue de la poésie et de la littérature moderne dans une perspective de réflexion philosophique. Il suffit d'en retourner les termes pour obtenir une parfaite définition de la poésie de Mallarmé. Elle veut exprimer un idéal qui existe par son propre rêve et qui ne soit pas le lyrisme de la réalité. Donc c'est vrai qu'on retrouve cette inspiration chez Mallarmé, c'est sûr, il y a des passages de Mallarmé qui sont extrêmement intéressants, parce que Mallarmé montre que la poésie doit être une création, créativité chez Maritain, doit être une création, et donc il faut aller le plus loin possible dans l'ordre de la négation, pour retrouver ce que c'est que vraiment cette création poétique. Ce souci que tout doit venir d'un jaillissement propre de l'homme et de sa subjectivité transcendantale. Alors, si on regarde maintenant Pierre-Emmanuel, il écrit ceci. Cette vocation, écrit-il, fait de ma poésie non seulement un langage, mais une intention. Je définis la poésie par ce que je veux qu'elle soit. Un langage orienté vers le sens caché, langage d'un être à qui manque l'être et qui vise à l'être, avec un grand T, en proférant ce manque. La poésie ainsi entendue est une activité singulière, la mienne. Je suis mon propre définiteur en poésie, mais je est un autre. Ma poésie dépassera toujours ce que je suis au moment de l'écrire. Elle est acte total. Oui, non, t'es des chiffres pour trouver. Elle est acte total. L'acte de ce qui se met, de ce qui se met et de ce qui se cherche dans sa parole. Celui qui se cherche lui-même, cherche au-delà de lui-même. Mettant son être en quête de l'être, le mot transcendantal, on est bien, en quête de l'être, mais sans le savoir toujours. Donc la poésie, c'est comme une extase, une sortie du je, bien que ce soit moi. Alors, vous voyez, cette subjectivité transcendantale qui se dépasse, c'est ça qui est très dur pour n'être plus que transcendantal. Le jeu peut être complètement dépassé dans cette espèce d'attente de l'être qui n'est pas présent, puisque c'est une absence de l'être premier de Dieu, et qui est comme une attente de cela. Il y a quelque chose comme ça pour Maritain, le beau transcendantal, Parce que le mot transcendantal peut exister quand tu... Alors, c'est une orientation vers quelque chose de cette manière. C'est curieux, vous voyez, c'est une, j'allais dire, une laïcisation de la grâce et des dons du Saint-Esprit. Il y a ça chez ces poètes qui s'expriment de cette manière-là. Il y a une espèce de laïcisation des dons du Saint-Esprit. Beaucoup de choses qu'ils disent de la poésie, on dirait des dons du Saint-Esprit. Le mystère de l'être est un mystère d'amour. Et la poésie est, pour Pierre-Emmanuel, sa façon d'approcher le mystère. Non ma relation au mystère, mais ma façon de l'approcher. C'est déjà beaucoup plus juste. La poésie est une façon d'approcher du mystère, c'est sûr. Quelque chose, l'ineffable unité, l'un qui se fait sentir à moi de manière personnelle, reste infiniment au-delà de toute poésie possible. Pourtant, celle-ci m'en fournit le symbole, l'arche du dialogue impossible s'amorce dans les mots. Donc, il y a quelque chose que je crois important à saisir, caractérise quand même notre monde. Caractérise un monde, vous voyez, où la foi n'inspire plus l'art, ça on peut le dire, et alors où l'art va essayer, et surtout la poésie, plus que tous les autres, va essayer, on retrouvera peut-être ça un peu dans la musique aussi, mais c'est surtout dans la poésie, va essayer d'être comme un tremplin vers l'absolu. Va essayer d'être une présence de l'absolu. Acte pur. Vous voyez, quand on dit ça, c'est quand même assez fort. Elle est acte pur, l'acte de qui se met et se cherche dans sa parole. Celui qui se met et se cherche dans sa parole. Celui qui se cherche lui-même, cherche au-delà de lui-même, mettant son être en quête de l'être, mais sans le savoir toujours. Il est une quête de l'être, il est une attente de l'être. Au fond, la philosophie de Heidegger est assez poésie à ce point de vue-là. En définitive, elle est une attente de l'être. Si nous voulions interroger sur la poésie des artistes qui ne sont pas poètes eux-mêmes, on pourrait recueillir des jugements aussi intéressants à noter. Pour Le Corbusier, la poésie manifestée constitue la raison d'être des arts. Maritain. La raison d'être des arts. Donc c'est bien ce premier qui donne le sens à tout le reste. Et quand Maritain dit ça, il correspond à quelque chose qui est dans l'air. C'est très bien en tant que poète, moi je veux bien que le poète manifeste quelque chose qui est dans l'air, mais pas le philosophe. Le philosophe doit avoir une précision, il doit montrer pourquoi c'est dans l'air, comment c'est dans l'air, mais il doit montrer que c'est pas ça. C'est pas ça la poésie, au sens absolu. On va essayer de le comprendre ensuite. Si nous voulons donc interroger, nous voyons comment Le Corbusier... La poésie manifestée constitue la raison d'être des arts, car la poésie transforme en l'étendant vers l'illimité la limite même des sensations. Ça fait tout éclater. Et puisque pour Le Corbusier, les arts sont le pain et le sel de la vie, c'est symbolique, et même sans doute la seule nourriture valable, la poésie, en définitive, est pour lui la seule nourriture valable, le pain et le sel par excellence, puisque c'est la raison d'être de tous les arts. Il n'y a plus que ça. On sauvera le monde par la poésie. On ne peut sauver le monde que par la poésie. Par contre, d'autres artistes considèrent leur art comme bien supérieur à la poésie. Ça, c'est autre chose. Le peintre, disait Delacroix, est bien plus maître de ce qu'il veut exprimer que le poète. ou le musicien livré à des interprètes. Et encore, ce genre d'émotion propre à la peinture est tangible, en quelque sorte. La poésie et la musique ne peuvent le donner. On voit très bien ce que veut dire Delacroix. C'est que la peinture a quelque chose de supérieur à la poésie et à la musique, c'est qu'il n'a pas besoin d'interprète. Tandis que la musique a besoin d'interprète, c'est sûr, et la poésie en a. Alors il faudrait se demander si c'est une infériorité ou pas. Ça, c'est intéressant. L'interprète, c'est un médiateur. Alors, est-ce que c'est vrai que la poésie a besoin d'un médiateur? Le chant a besoin d'une médiation ainsi que la musique, tandis que la peinture, pas. Vous n'avez qu'à regarder. Alors, vous comprenez ou vous ne comprenez pas. C'est l'inspiration qui vient du fond.